BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
On vous accompagne en direct comme chaque soir pour le débrief de cette séance qui n'est pas encore terminée. Bienvenue à tous, BFM Bourse jusqu'à 18h en mode concentré tout au long de l'été. Vous retrouverez bien sûr l'analyse de chaque séance en service continu chaque soir aux alentours de 17h30. On vivra dans 7 minutes maintenant, on a le temps, encore quelques minutes pour débattre. D'ici là, on suivra la clôture, donc ce sera 17h35. En attendant, le CAC nous fait une séance presque pour rien là. En ce 14 juillet, le CAC est ouvert et stagne. On est vraiment à l'équilibre à l'instant sur le CAC 40 à 8365 points. Nos invités ce soir pour mesurer le potentiel à venir, analyser les forces en présence dans le marché. Aymeric Blond, gérant pour Taylor AM, est avec nous. Bonjour Aymeric.
Bonjour Guillaume.
Merci de nous avoir répondu et de nous offrir quelques minutes en ce 14 juillet. On remercie aussi à distance Sébastien Corchia qui est aussi avec nous et qui nous accompagne. Bonjour Sébastien. Directeur de l'investissement de Cogefi Gestion, ravi aussi de vous retrouver. Alors c'est le 14 juillet, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est le 14 juillet qu'il se passe rien. Bien loin de là, on a des chiffres d'inflation aux États-Unis très intéressants à analyser ensemble. D'ailleurs, Wall Street est en forte hausse. Je vous laisse deviner dans quel sens va l'inflation américaine. Les chiffres du jour, oui, c'est une belle hausse à Wall Street. Le S&P gagne 0,5%, le Nasdaq gagne un peu plus d'1%. On a Kevin Warsh aussi qui s'exprime devant le Congrès américain. Et du côté des nouvelles difficile à avaler, c'est du côté du pétrole qu'on a, la mauvaise surprise, le Brent qui a franchi les $86. Dans quel ordre on prend les sujets? On va démarrer peut-être par l'inflation américaine parce que c'est le fait du jour. On parlera aussi des banques américaines qui commencent à publier et c'est plutôt positif de ce côté-là. Aymeric, l'inflation US donc a été publiée, celle du mois de juin, et c'est la divine surprise. On attendait des prix à la consommation en hausse de 3,8%. Finalement, ils ne progressent que, entre guillemets, de 3,5%.
Oui, c'est ce qu'on appelle des moins mauvaises surprises. Donc, mais effectivement, c'est des choses qui surprennent positivement, qui contribuent à apaiser un petit peu aussi la nervosité des investisseurs, parce que c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui, c'est on a un marché très très nerveux, avec des investisseurs très nerveux qui, dictent un peu ces conditions de marché où les valorisations sont tendues, les parcours boursiers sont importants, et donc effectivement le moindre dérapage de la publication macroéconomique peut effectivement tout envoyer dans le décor. Et là, c'est plutôt un ouf de soulagement poussé par les investisseurs.
Oui, Wall Street est en nette hausse. Alors Sébastien, on va rentrer dans le détail de ces chiffres d'inflation, puis après on passera au reste. On parlera aussi d'IBM qui perd 25% aujourd'hui. Il s'en passe des choses. IBM qui déçoit sur ses perspectives. D'abord donc cette inflation américaine. Comment, quand vous avez vu le chiffre tomber à 14h30, vous avez réagi? On voit que ça fait monter les marchés. Est-ce qu'on peut se dire que les craintes inflationnistes, même aux États-Unis, sont en train de commencer à se dissiper après ce chiffre?
Alors oui, mais attention, parce qu'il s'agit de chiffres qui reprennent cette période de baisse du pétrole. Et d'ailleurs, dans ces chiffres, ils sont très impactés par la baisse des prix de l'essence qui ont baissé de plus de 10%. Alors c'est super, ça nous fait une baisse des prix à la consommation, c'est la première fois depuis 6 ans. C'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a quand même beaucoup de commentateurs qui nous expliquent, eu égard à ce qui se passe dans le Golfe, que tout ceci peut être un petit peu transitoire et donc c'est très difficile de tirer un trait. C'est pour ça que dans un premier temps, à la vue de cet excellent chiffre, les taux à 10 ans ont fortement baissé en quelques secondes. C'était vraiment le signe que pour les marchés obligataires, c'était une très bonne nouvelle. Et ça voulait dire aussi d'ailleurs que s'éloignait la hausse des taux courts, est sûrement une bonne nouvelle pour Monsieur Kevin Warsh, moins de pression. Mais ces taux longs sont un petit peu remontés, justement parce qu'on se dit, il y a que les prix de l'essence derrière tout ça. Alors bonne nouvelle quand même. On avait un petit peu peur que ces chiffres soient tendus parce que il y a le mondial de football aux États-Unis et donc il y a beaucoup de consommation et de réservations d'hôtels, de tourisme, etc. Ça pouvait mettre une petite pression inflationniste. Il n'en a pas été visiblement suffisamment fort pour que ça fasse bouger ces chiffres. Donc, une bonne nouvelle qui va faire baisser les taux, en tout cas, pas les faire monter, mais dans les anticipations de probabilité, les faire un peu baisser. Mais c'est loin de la baisse des taux, mais un chiffre ne fait pas la tendance encore.
C'est sûr, les anticipations de hausse de taux de la Fed, Aymeric, après ce chiffre d'inflation qui est le fait du jour quand même sur les marchés, les anticipations de hausse de taux de la Fed se sont effondrées de moitié. On était, avant la publication de ce chiffre d'inflation, à 40% de proba de hausse de taux au juillet ou la fois suivante. Là, on n'est plus qu'à 20%.
Oui, c'est logique. Hein, le mandat de la Fed qu'on connaît jusqu'à présent, c'est le contrôle de l'inflation. Donc, effectivement, il fallait maintenir une inflation à 2% ou en dessous, et bon, bah, une inflation qui prend le chemin des 2%, parce qu'on est loin maintenant, et quand même à ces niveaux assez élevés, bah, on sait, ça prend plutôt le bon sens, et donc ça, ça rassure un peu les observateurs, et, comme le disait, très justement mon collègue, effectivement, la composante énergétique dans l'inflation est assez importante, notamment aux États-Unis. Et donc là, bon, on voit que bah il y a un reflux sur cette composante-là de l'inflation. Et je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle qui pourrait aller continuer dans le bon sens.
On a un chiffre d'inflation aux États-Unis, les prix à la consommation, qui d'un mois sur l'autre, même s'ils sont plus fort ralentissement depuis 2020. La question, c'est est-ce que ça va durer? Comme disait Sébastien, un point ne fait pas une tendance, mais d'un mois sur l'autre, les prix à la consommation américains signent leur plus fort ralentissement depuis avril 2020. C'est quand même pas rien. Et donc, les anticipations, d'un coup, là, comme ça, ça pourra se corriger. Hein. Les anticipations de hausse de taux de la Fed s'effondrent de moitié cet après-midi. Alors, les taux obligataires, du coup, en profitent. C'est vrai, le 10 ans américain recule un peu, pas énormément, à 4,56 ce 10 ans américain. L'autre 10 ans français, lui, est à 3,87. Il était tout à l'heure à 3,90. Et justement, restons sur cette thématique avant, dans un instant, la clôture. Sébastien, Kevin Warsh s'exprime aujourd'hui devant le Congrès américain, sa première expression dans cette forme hein, face au Congrès depuis qu'il est devenu président de la Fed. Voilà ce qu'il a dit. Il souhaite, dit-il, adopter une politique monétaire adéquate, aucune tolérance pour une inflation élevée persistante. Et c'est un nouveau chapitre de l'institution qui va s'ouvrir, dit cet après-midi Kevin Warsh. Sébastien, qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que vous en attendez désormais de Kevin Warsh?
Alors, vous savez, Kevin Warsh, il a fait comprendre qu'il n'aimait pas dévoiler son jeu. D'ailleurs, il n'a pas participé au dot plot, il n'a pas donné les siens, mais malheureusement, devant le Sénat, d'abord, c'est deux jours, hein, c'est devant la Chambre, puis devant le Sénat, c'est un exercice, un passage obligé, une figure imposée tous les six mois, il doit dire des choses. Alors, en fait, il va surtout faire de la méthode, expliquer ce que va être, ou réexpliquer ce que va être la méthode Kevin Warsh. Alors, bien sûr, il peut... Et il a tout intérêt à dire qu'il a été élu avec de l'indépendance, avec l'idée de combattre, ce qui est quand même le mandat numéro un de la Fed, de combattre l'inflation. Mais on sait aussi, alors il va être aidé par ses meilleurs chiffres qui viennent d'être publiés, mais on sait aussi qu'il a sa propre vue, en fait, des outils que doivent utiliser la Fed, et notamment la mesure de l'inflation. C'est pour ça qu'il veut refondre complètement... l'institution, les économistes, la team d'économistes, parce qu'en fait, aujourd'hui, il veut bien dire l'inflation que vous regardez, c'est sûrement pas celle que vous regarderez demain. C'est aussi pour ça que je dis attention, attention à être trop focus sur un chiffre d'inflation, parce que lui-même l'a dit, les mesures utilisées par le passé ne seront sûrement pas celles du futur. Et il a aussi dit que l'objectif, c'était 2% d'inflation. Donc, il dit qu'il veut combattre l'inflation, 2% d'inflation. Mais rappelons-nous, lors de sa dernière intervention, qu'il avait dit que de 2 à 2,9, on est toujours à 2. Donc, en fait, ça met une marge une attitude d'observation assez forte. Donc, je crois qu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à attendre de cette figure imposée, encore une fois, devant le Sénat, si ce n'est de la méthode pour que demain, il puisse véritablement dérouler sa nouvelle façon de faire de la politique monétaire, notamment en ne disant pas ce qu'il va faire. Il avait dit d'ailleurs qu'il aurait bien aimé être comme Madame Lagarde, c'est-à-dire de ne pas avoir de forward guidance, et il n'en aura plus d'ailleurs.
Oui, oui, d'ailleurs, effectivement, il s'oppose au forward guidance, effectivement, 17h36. Tiens, ça y est, c'est la clôture sur les marchés. On est ensemble en direct. Sébastien, Aymeric, vous restez avec nous. Le CAC 40 termine ce soir quasi stable, à plus 0,03. Hein, pas de gros mouvements sur cet indice CAC 40. 8000, faut pas exagérer quand même, 8366 points. Les plus fortes hausses, Schneider Electric gagne 1,6%, Legrand aussi, donc là on a une thématique sectorielle forte, Legrand aussi progresse donc d'1,9%, on a le secteur bancaire aussi, Crédit Agricole gagne 1,6%, on va parler ensemble des banques américaines qui ont commencé à publier il y a quelques heures, et puis les replis du jour, c'est Kering par exemple en repli de 2,4% à Paris, on a aussi Essilor Luxottica, alors qui subit un abaissement d'opinion aujourd'hui, Essilor Luxottica, moins 2,4%. Aymeric, vous la suivez cette valeur Essilor Luxottica, on peut en dire un petit mot, hein, rebondir sur cette clôture, moins 2,4%, c'est Goldman Sachs qui abaisse son conseil. Pour Goldman Sachs, la concurrence sur le marché des lunettes connectées intégrant l'IA va s'intensifier et la croissance donc ralentir au second semestre pour Essilor Luxottica. Moins 2,4 ce soir en clôture. On a l'impression que c'est un rêve en train de s'achever. Là. Il y a quelques mois, c'était la valeur sur laquelle tout le monde misait, puis ça fait pchit cette année en bourse.
Ah, c'est pas une question de valeur, hein. C'est une question de composante produit. Et en fait, le problème, c'est que le narratif autour d'Excel Logistica, avant, c'était des verres de prescription, quelques lentilles, des montures effectivement pour les lunettes, et c'était tout. C'était ça. Et il y avait de la croissance, parce qu'effectivement, bah, à horizon 2050, 80% de la population sera atteinte de myopie ou d'une affection oculaire. Et le problème, c'est que le narratif a changé au moment où ils ont introduit ces lunettes Meta. Et là, tout le monde s'est dit, waouh, révolution, on va avoir effectivement un changement de paradigme, ça va devenir une boîte de tech. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'a jamais été une boîte de technologie. Ça a toujours été une société, effectivement, de verres correctifs. Et c'est tout. Et la partie Meta lunettes connectées, ça a toujours été une ligne assez fine dans la top line, donc dans le chiffre d'affaires de la société. Contribution très faible, niveau de marge assez faible aussi. Du coup, en fait, l'histoire initiale de EssilorLuxottica a été déraillée à cause de ce nouveau narratif. Et de manière assez injuste. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des analystes qui sont en train de revoir à la baisse leurs attentes en se disant, bon, finalement, l'histoire des lunettes connectées, ça y est, ça a fait pchit, tout le monde commence à s'y intéresser, la concurrence chinoise, etc. C'est pas si de rupture que ça, on le pensait. Et voilà, on est en train de reset le consensus autour des lunettes connectées. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose parce que ça reste un groupe d'une très grande qualité. Faut le rappeler, hein, depuis 15-20 ans, on a peut-être 1900% de croissance. Ça reste quand même voilà, une société de très grande qualité avec des fondamentaux extrêmement solides. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais il faut effectivement attendre que le consensus sera juste.
Sur la clôture du jour, on a aussi qui se distingue Total Energy en hausse avec les cours du pétrole. Sébastien, c'est quand même une phase pétrolière impressionnante qu'on vit là. Le baril de Brent a franchi tout à l'heure la barre des 86 $, c'est-à-dire qu'on a sur le pétrole retrouvé les niveaux d'avant le cessez-le-feu du 17 juin. Le Brent vient de gagner 10 $ en deux jours, 20% de hausse quand même en une semaine, avec, c'est vrai, le retour des tirs hein, là-bas au Moyen-Orient. Donald Trump qui a expliqué hier au Congrès que oui, c'était à nouveau la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump qui dit rétablir le blocus naval sur les navires iraniens. Comment vous regardez ce mouvement du pétrole et la réaction du marché qui, oui, bien sûr, a du mal à progresser avec la hausse des cours du pétrole, mais ne s'effondre pas pour autant?
Alors, plusieurs choses. Déjà, la hausse des cours du pétrole, elle est quand même, somme toute, logique dans cet environnement-là. Elle va d'ailleurs bénéficier aux sociétés pétrolières qui sont des composantes importantes, y compris d'ailleurs sur le CAC 40, mais aux États-Unis dans l'idée de battre, on y reviendra peut-être, cette forte attente sur les résultats de croissance de résultats aux États-Unis. Et quant au sujet du Moyen-Orient, bah, effectivement, c'est un gros problème parce que on approche des mid-term si les cours du pétrole remontent, les anticipations d'inflation peuvent remonter. Donc d'ailleurs, la bourse peut se satisfaire d'un chiffre qui était très bon, mais qui ne vaut pas grand-chose si le pétrole remonte. En plus, Donald Trump, au-delà de sa communication, qui est un petit peu confuse quand même, parce que il a dit qu'il voulait mettre 20% maintenant sur tous les bateaux qui sortaient. Et puis, il vient de changer il y a quelques minutes. D'ailleurs, je l'ai lu, son narratif, en disant « Non, je vais pas faire ça, je vais faire autre chose ». Donc, les cours du pétrole sont un petit peu perdus, d'autant que les stocks sont au plus bas aux États-Unis, hein, au plus bas depuis de très nombreuses années. Et donc, il va falloir les reconstituer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont extrêmement complexes, positifs et négatifs sur le pétrole, et ce qui fait que ça génère une volatilité extrêmement forte, compliquée naturellement pour les entreprises, pour les États, de faire des projections sur la suite de l'année. D'autant que il vient de demander, Donald Trump, hier, alors pas une autorisation, mais informer le Congrès qu'il reprenait des frappes. C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'il s'était complètement affranchi de cette demande la première fois. Je pense qu'il a retenu la leçon d'il y a à peine 3 semaines lorsque le Congrès, en tout cas le Sénat, juste après la Chambre des représentants, avait infligé un camouflet assez fort puisque à 50 voix contre 48, et dans ces 50 voix, il y avait 4 républicains qui lui avaient dit « maintenant ça suffit ». Tu arrêtes la guerre. Donc, vous voyez qu'il est gêné parce que finalement, c'est pas trop quoi faire.
Effectivement, et on n'y est pas à l'arrêt de la guerre, hein, pour l'instant. Le cours du pétrole qui donc repasse, il est repassé tout à l'heure au-dessus des 86 dollars, retrouvant ses niveaux d'avant le cessez-le-feu du 17 juin. Alors, il s'est un peu assagi depuis le pétrole, on est à 84, là, parce que parallèlement, Donald Trump dit que non, non, finalement, il va pas demander à prélever des taxes sur les navires passant Hormuz. Hier, c'était quand même la nouvelle qui a fait cette sensation, hein. Donald Trump avait annoncé une taxe de 20% prélevée par les Américains sur le passage par Hormuz des navires. Et finalement, il annonce aujourd'hui y renoncer. Sébastien, si le détroit d'Hormuz ne rouvrait jamais comme avant, et c'est possible, quelles conséquences cela aurait ?
Alors, il y a quelques mois encore, beaucoup d'économistes, de stratégistes ou de spécialistes du pétrole vous disaient que ça serait la catastrophe. Ça le serait quand même encore en partie. Ça mettrait les cours du pétrole durablement haut assez longtemps, ne serait-ce que 12 mois ou 24 mois. On le sait, en fait, le niveau du pétrole, ce n'est pas le truc le plus important. C'est le fait qu'il reste longtemps ou pas à des niveaux élevés. Alors, qu'il ait des pics comme ça, c'est pas très grave. Les bonnes nouvelles, c'est que tout le monde a pris conscience, en fait, de cette situation du détroit d'Hormuz, et les travaux, visiblement, s'accélèrent, notamment dans les pays du Golfe, pour faire des éléoducs de substitution ou les dédoubler vers la mer Rouge ou ailleurs, en passant par Oman pour qu'ils sortent directement en mer Rouge. Ou ailleurs dans le Golfe, en tout cas plus loin que la zone du détroit. Et certains estiment qu'à partir de 2028, eh bien le détroit d'Hormuz, fin 2027 début 2028, le détroit d'Hormuz serait moins stratégique. Maintenant, il faut pas se voiler la face, il y a à la fois le pétrole qui sort, mais le pétrole, ça peut passer par les oléoducs, mais il y a plein d'autres produits qui sortent du détroit d'Hormuz, des produits chimiques notamment, qui eux ne peuvent pas passer tout simplement par des oléoducs. Et puis il y a les produits entrants aussi qu'on exporte le monde entier vers les pays arabes du Golfe. Donc c'est un élément de perturbation qu'il faut absolument circonscrire. Et c'est pas la solution à 20% de droits de douane. D'ailleurs, qu'on applaudit les Iraniens parce qu'ils ont dit, bah, regardez, c'est très bien ce que fait Monsieur Trump, ce que veut faire Monsieur Trump, c'est ce qu'on propose. Donc on est d'accord. Bah oui, parce que 20% de taxes sur un baril de pétrole à 80, ça vous ferait un baril de pétrole à 96. De faire monter les prix du pétrole, ça ne résolvera pas le sujet.
Oui, mais ça fera la rentabilité pour les groupes pétrolier. Tiens, on a BP qui a aujourd'hui justement annoncé ses perspectives. BP à la Bourse de Londres, le pétrolier britannique a gagné un peu plus d'1,5%. Emeric, BP annonce des perspectives de résultats solides malgré alors le recul de leur production de pétrole au deuxième trimestre dans la région du Golfe. Mais ce recul de la production de pétrole dans la région du Golfe est compensé, nous dit BP, par le rebond des cours. Et donc, perspectives de résultats solides finalement.
Oui, c'est logique. Hein. Cours du pétrole qui compense l'effet volume. Mais on peut parler aussi des cours du prix de l'électricité BP produit l'électricité. Hein, ils produisent beaucoup d'électricité à base d'énergie renouvelable. Donc effectivement, c'est un des plus gros investisseurs dans ce type d'énergie. Ils vendent l'électricité, donc effectivement, ils tirent aussi profit de la vente d'électricité qui, elle aussi, subit cette inflation énergétique par ricochet. Donc, quelque part, pour eux, c'est un billard un petit peu à 2-3 bandes, mais effectivement, souvent dans le positif, souvent gagnant. Total, c'est un peu pareil. Plus gros investisseur dans les énergies renouvelables, en parallèle, c'est l'activité pétrolière et gazière. Ils sont gagnants. Mais effectivement, il y a un moment donné, là, dans ces circonstances-là de géopolitique un peu trouble, donc effectivement, l'incertitude génère effectivement des problématiques d'augmentation et de baisse des prix, de forte volatilité des prix, mais des matières premières énergétiques. Mais il y a un moment donné, on en parle, enfin, le 2-3 d'Hormuz, où il y a un moment donné, cette inflation énergétique va effectivement va cesser ou se réduire. Donc là, il y aura peut-être des publications un peu moins bonnes. Mais bon, voilà, globalement, c'est vrai qu'ils sortent souvent gagnants.
On vous rappelle la clôture hein, ce soir à Paris, stable, notre CAC 40. Alors à Wall Street, on est un peu mitigé là désormais. Le Nasdaq gagne 0,9% et retrouve son rôle de refuge. Hein, le Nasdaq, quand ça se réembrase un peu au Moyen-Orient, on se dit, bon, le Nasdaq est quand même un peu moins exposé, un peu comme au deuxième trimestre là, et on retrouve ce rôle un petit peu de valeur refuge face à la géopolitique du Nasdaq qui gagne 0,9% ce soir. Notez que d'après Bloomberg, DeepSeek, le chinois DeepSeek, envisage une introduction en bourse, pourquoi pas d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une des grosses infotech du jour. DeepSeek, donc le chinois qui s'introduira en bourse, et on sait qu'il y a de nombreuses intros dans la tech là-bas en Chine. Et puis l'autre info dans la tech du jour, c'est IBM quand même. IBM est en train de chuter là sous nos yeux, mesdames, messieurs. On est en train de perdre sur ce titre IBM à Wall Street 25%. IBM chute après avoir annoncé que ses résultats du deuxième trimestre n'atteindraient pas les prévisions de Wall Street. IBM parle d'une une faiblesse des activités logicielles et infrastructures. D'ailleurs, dans son sillage, les acteurs des logiciels reculent. ServiceNow perd 4,5%, Dassault Systèmes à Paris perd 1,5%, SAP a perdu 3% ce soir, Aymeric.
Oui, bah, pas de surprise. Hein. C'est le problème.
On aurait pu s'en passer quand même. Je ne cache pas que les acteurs des logiciels, là, ils doivent se dire, oh, alors maintenant IBM qui en a remis une couche. Moins 25% IBM.
Oui, mais tout le monde s'y attendait un petit peu. Hein. C'est vrai que on a cette composante matérielle, hardware, qui, elle, semble fonctionner correctement, voire plutôt très bien, et cette partie software. Tous les groupes avec des activités un peu diverses qui... C'est vrai qu'à l'époque, il fut une époque où avoir un large panel d'activités était une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que bah, le marché n'aime plus ce genre de dossier. Des dossiers, effectivement, des activités bah, qui, quelque part, arrivent à... où les activités on connaît des phases de hausse qui compensent les phases de baisse des autres activités, etc. Et au final, on a une espèce de moyenne un petit peu heureuse. Et le marché n'aime plus ça. Et on le voit, on parlait d'augmentation de capital, enfin de placement boursier, etc. Bah, il y a beaucoup de dossiers qui aujourd'hui cherchent à se concentrer et donc spin-off les activités. Il y a eu Siemens qui a spin-offé au moins 4 fois ses activités, santé, énergie, etc., infrastructure, etc. On a eu GE qui a fait pareil, General Electric en US. On a plein d'acteurs qui effectivement aujourd'hui se purifient. Ils étaient allés faire la chasse à tout va sur plein d'activités un peu transverses et aujourd'hui on assiste à des phénomènes de concentration où on essaie effectivement d'acquérir des places un peu de leadership sur des métiers très précis.
Oui.
C'est un petit peu le sens de l'histoire aujourd'hui et IBM souffre un peu probablement de ça.
Oui, et la question, est-ce que l'IA va générer une telle demande que les investissements seront véritablement rentables? IBM en tout cas annonce que ses résultats du deuxième trimestre n'atteindront pas les attentes, moins 25%, en raison de la faiblesse de la demande des acteurs des logiciels. SAP donc perd 3% ce soir, Dassault Systèmes perd 1,5%. Votre regard là-dessus sur ce mouvement du jour qui est l'un des mouvements puissants? Alors ce qui est la bonne nouvelle quand même du jour, c'est que ça n'empêche pas le Nasdaq de gagner 1%, hein, malgré tout, Sébastien.
Oui, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et quand on regarde finalement l'histoire, le narratif que nous donne IBM sur cette publication de résultats, il nous explique qu'en fait, leurs clients ont reporté les achats et leurs dépenses de logiciels, ou en tout cas ont arbitré leur budget informatique pour le diriger vers la cybersécurité qui visiblement est un gros, gros sujet. Ça l'a toujours été, mais on le voit. C'est un sujet qui ne fait que s'accroître et surtout, leurs clients disent à IBM qu'ils veulent acheter le plus vite possible du matériel pour l'IA, ça peut être des serveurs, ça peut être des PC, ça peut être de la mémoire, de peur que les prix qui montent déjà beaucoup montent encore plus vite. Et donc, il y a cette peur de l'inflation des composants qui fait que les clients réarbitrent pour acheter ça et quand vous avez 100 euros de budget, $100, eh bien, vous ne pouvez pas, il faut faire des choix. Et visiblement, IBM, alors la bourse tout de suite tape sur Salesforce, tape sur Adobe, tape sur SAP, etc., en se disant ce sera pareil pour les autres, on verra. En tout cas, la sanction est particulièrement sévère, mais comme je vous l'ai dit, le malheur des uns fera peut-être, on verra si le narratif d'IBM se retrouve dans la publication des vendeurs de PC, de serveurs et de mémoire.
Et pendant ce temps, on aurait presque failli les oublier. Les banques américaines ouvrent le bal des publications. Alors, c'est pas forcément ce qui fait la tendance ici en Europe, hein, les banques américaines. Mais quand même, il faut le souligner, c'est un secteur qui reste évidemment systémique, très important. Un bon reflet aussi de l'état de l'économie américaine. Elles sont en première loge, les banques américaines. JP Morgan a publié, Goldman Sachs. Enfin, il y en a plusieurs, là. Et c'est plutôt au-dessus des attentes, hein. On est plutôt gentiment, positivement surpris. Je vois JP Morgan en hausse de 2%, là, ce soir à Wall Street, Aymeric. Et Goldman Sachs, plus 7% carrément.
Oui, je suis pas surpris. Hein. C'est vrai que sur les marchés, on observe une espèce de morosité ou de grisaille où on ne sait pas trop à quel sens se vouer. Mais la vérité, c'est que les marchés montent. Et les marchés montent. Aux États-Unis, la consommation tient. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que malgré cette perspective d'inflation, ces problématiques effectivement de consommation potentielle, bah, la conso tient. Et le consommateur est toujours là. Et bah, quand on sait que effectivement, chez les banques américaines notamment, l'aspect consommation reste très important. Par ailleurs, on a des taux qui restent élevés. Et bah, aux États-Unis, effectivement, les banques américaines en profitent à plein. Et c'est pas parce qu'on aurait la vérité de baisser les taux ou de monter les taux aux États-Unis, mais en Europe aussi, hein, que les perspectives de bénéfices liées aux produits taux vont baisser ou monter. Il y a l'effet volume qui vient compenser en général. Du coup, effectivement, que les taux baissent ou que les taux montent, c'est un petit peu la même chose pour eux. Par ailleurs, activité de marché, on parlait, augmentation de capital, enfin les IPO, tout ça.
Goldman Sachs a contribué. Exactement. J'illustre juste à travers Goldman Sachs, qui a été une des banques importantes engagées dans l'introduction en bourse de SpaceX. Goldman Sachs nous annonce 55% de hausse dans les revenus liés à la banque d'investissement.
Eh oui.
Au deuxième trimestre.
Quand on a les marchés qui caracolent comme ça, quand on a beaucoup de placements, que ce soit du primaire, du secondaire, enfin des introductions en bourse ou effectivement des placements secondaires, c'est des choses qui bénéficient à plein pour ces activités de marché. Et Goldman Sachs est une banque d'affaires avant une banque. Effectivement, c'est pas vraiment étonnant et je pense que ça va continuer comme ça aux États-Unis et en Europe.
Bon, je sais que vous mourrez d'envie d'en parler, donc on va en dire un mot quand même. Aujourd'hui, il y a eu une introduction en bourse sur le marché français. Puis Sébastien rebondira aussi sur ce marché des introductions en bourse. On est le 14 juillet, ils l'avaient annoncé, c'est fait, ils l'ont réalisé, leur intro, le slip français. Ça y est, coté. Comment ça s'est passé cette première journée de cotation pour le slip français? Eh bien, pas mal, plus 2% ce soir en clôture, le slip français désormais coté, donc ici à Paris, à 15,10€. C'est le cours de clôture ce soir, Émeric. Il faut l'avoir en fond de portefeuille.
Non. Je vais être parfaitement transparent. Slip français, il ne faut pas oublier que c'est une histoire donc effectivement française, quelque part une forme de révolution d'un outil du quotidien qui on connaît tous. Seul problème, c'est qu'il faut savoir quand même que c'est un dossier qui a frôlé la faillite il y a quelques temps. Donc effectivement les créanciers et les actionnaires de l'époque quand c'était encore non coté se sont un petit peu mouillés pour effectivement assurer la continuité de l'activité, nouveau management, nouvelle feuille de route, etc. Et sur la base de ça, on s'introduit en bourse. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'une partie du placement, c'est une augmentation de capital. Donc, effectivement, c'est des fonds levés pour le bénéfice de l'entreprise. Mais une autre partie de la levée, c'est du secondaire. Qui va aller, effectivement, entre les mains, des actionnaires existants qui sont des acteurs du private equity. En gros, on assiste à un phénomène qui va arriver et qui va, à mon avis, s'intensifier. C'est l'arrivée de dossiers, bien packagés, qui vont arriver sur les marchés parce que, effectivement, le private equity doit absolument liquider ses positions. C'est des fonds qui ont des échéances, qui arrivent à expiration, et à moins de faire des fonds de portage pour effectivement encore étendre les maturités, c'est des acteurs qui vont arriver sur le marché au fur et à mesure que...
Donc pour vous, le slip français en bourse, c'est pas une porte d'entrée, c'est une porte de sortie pour ceux qui étaient au capital. C'est avant tout une porte de sortie.
Je pense, oui, malheureusement, et ça va se faire au détriment des actionnaires existants qui effectivement ont souscrit à cette opération. 2% de hausse, ça veut pas dire une sursouscription très très importante, je pense. Méfiant, très méfiant.
Sébastien, alors il y a le slip français, donc on rappelle ce soir, le titre a gagné un peu plus de 2%, qui lève 5 millions d'euros, qui compte doubler quand même son chiffre d'affaires d'ici 2030. Le problème, c'est que quand il y a des intros ici en Europe, elles sont très rares, elles sont pas très nombreuses. On espérait aussi celle de KNDS dans la défense, on est le 14 juillet. Groupe franco-allemand, KNDS, les fameux canons César, c'est KNDS, les chars Léopard 2, c'est KNDS. Et ben finalement, Sébastien, ils ont annoncé... KNDS, il y a quelques jours, reportait leur intro en prétextant les conditions de marché. Elles ont beau dos, les conditions de marché. Comment vous regardez cette difficulté en Europe à introduire en bourse des groupes de taille?
C'est compliqué parce qu'en fait, on a un marché des investisseurs qui ne sont pas assez profonds. Vous le voyez, est-ce qu'on serait en capacité d'absorber à répétition des levées de fonds à hauteur de 25 milliards comme aux États-Unis? Donc en fait, on a des levées de fonds qui sont soit toutes petites, avec des capitalisations toutes petites. Le site français, je crois avoir regardé vite fait, c'est une vingtaine de millions d'euros. Donc ça veut dire qu'aucun institutionnel peut véritablement y aller, ni produits dérivés type ETF, etc. et tout. Donc ça intéresse une communauté extrêmement petite. Et quant à KNDS que vous évoquez, c'est du dossier qui est de l'ordre du public. Alors certes, il y a une famille derrière, mais on est dans le public parce que vous êtes dans les commandes publiques, parce que vous avez des États derrière, et vous avez donc une lecture qui n'est pas celle de la bourse. Vous avez une temporalité qui n'est pas celle de la bourse. Vous l'avez vu avec Rheinmetall, qui tout d'un coup, l'État allemand décide d'annuler la construction de 9 frégates. Et puis, une temporalité de ce type de valeur qui est dans un temps long, des commandes qui sont très longues avec des risques d'exécution. Ça fait penser parfois à des dossiers type Alstom. Quand vous commandez un train, il vous faut un certain temps pour que le train soit livré et payé. C'est encore pire quand c'est un porte-avions, des dizaines de chars ou des frégates maritimes. Et malheureusement, la bourse, elle est dans le temps des résultats trimestriels. Donc on voit bien qu'il y a une inadéquation sur ce type de valeur. En plus, vous y rajoutez tout un tas d'aléas liés au budget des uns et des autres, aux élections des uns et des autres, qui fait que tout d'un coup, ce qui avait été voté ne le sera plus, etc. Donc vous voyez que malheureusement, ces dossiers-là soit le slip français beaucoup trop petit, soit des dossiers plus ou moins étatiques, bah, peuvent profiter d'un momentum boursier positif ou d'un momentum boursier thématique positif comme sur celui de la défense, mais en fait ne sont pas adaptés à finalement au public et aux investisseurs institutionnels qui veulent éventuellement des investisseurs de la défense qui font par exemple des carnets de commandes. On a vu Excel avec des carnets de commandes où il y a des commandes, ça tourne et on a un vrai prévisionnel. Malheureusement, Excel s'en va. Et puis, si vous prenez le parallèle d'Excel sur des petites valeurs, ben vous avez Voyageurs du Monde, très belle entreprise, qui s'en va. Donc, on a du mal à en faire rentrer. C'est pas forcément les bonnes, et les bonnes s'en vont. Donc, on a une cote qui vraiment s'appauvrit, et c'est là que ça rend les choses difficiles, et les autres places peut-être plus attractives.
Et à la fin, Aymeric, dans l'univers des small and mid-cap, il restera que les moins attractives en bourse, celles qui n'auront pas été rachetées ou...
Ah oui, mais c'est un nivellement par le bas, hein, comme... Ouais. Qu'on vient de le dire là, hein, c'est que effectivement les meilleurs dossiers partent, sont sortis de la bourse, parce que parfois mal reconnus, hein, et puis d'autres effectivement, bah, ceux qui arrivent sont souvent de moins bonne qualité. Ouais.
Bon, on rappelle, le slip français s'est introduit en tout cas aujourd'hui et gagne 2% en clôture. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, ça passe vite, hein, de nous avoir accompagnés en ce 14 juillet en direct, d'avoir pris une demi-heure, hein, sur votre emploi du temps national, de fête nationale. Aymeric Blond, gérant pour Taylor AM, et un grand merci aussi à Sébastien, qu'on salue à distance, Sébastien Corchia, directeur d'investissement de Cogefi Gestion. Bonne soirée messieurs.